à ne pas le blesser, à ne pas rouvrir cette blessure. Vous le protégiez, vous l'avez beaucoup protégé, votre père. Mais voilà, vous l'aimiez, c'est avec lui que vous viviez aussi. Oui, donc,
oui,
mais
oui, bien sûr. Bon, après, il a quand même, il s'est quand même occupé de moi.
Bien sûr, oui, oui, non, mais bien sûr.
Donc c'est vrai que je suis un peu tiraillée et je le suis toujours aujourd'hui.
Toujours. Ah bon.
Alors, je vais vous expliquer.
Alors, vous allez m'expliquer cela où vous en êtes aujourd'hui dans votre lien avec lui après les infos. D'accord,
oui,
Émilie?
D'accord.
On marque une courte pause.
Oui.
À tout de suite.
Okay.
RTL. Merci d'écouter RTL. Il est minuit. 24 heures d'infos avec Charles Ducrot.
Sciences Po Paris et plusieurs campus toujours bloqués et occupés par le comité Palestine en soutien aux populations de la bande de Gaza. Plusieurs locaux seront à nouveau fermés demain, annonce l'école. Plus tôt dans la journée d'hier, les étudiants ont pu débattre avec l'administration. La position adoptée par la direction reste décevante, jugent les étudiants. 6 d'entre eux ont entamé une grève de la faim. Les agriculteurs vont devoir attendre. Les syndicats reçus ce jeudi matin à l'Élysée actent un rendez-vous manqué. Emmanuel Macron leur a expliqué qu'il ne croyait pas à la fin de la colère du jour au lendemain, tant les causes sont multiples et parfois longues à traiter, estime le chef de l'État. Il ne livrera sa vision pour l'agriculture que dans plusieurs mois. L'actualité, c'est aussi la campagne des européennes et le temps de parole d'Emmanuel Macron pour son discours de la Sorbonne, décompté dans son intégralité du temps imparti à la liste de la majorité. La décision a été rendue par l'ARCOM. L'autorité de l'audiovisuel estime que le discours était en lien direct avec les élections. Carla Bruni-Sarkozy, entendue pendant près de 3 heures ce jeudi par les enquêteurs, suspectée d'avoir joué un rôle pour protéger son époux Nicolas Sarkozy autour de la rétractation en 2020 de Ziad Takieddine, qui accusait l'ancien président d'avoir financé sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds libyens. Concernant d'éventuelles poursuites, aucune décision immédiate n'a été prise par les magistrats instructeurs, selon une source judiciaire. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande le retrait du projet de loi sur l'influence étrangère examiné en ce moment au Parlement de Géorgie. Depuis plusieurs jours, d'importantes manifestations secouent le pays. Le représentant de l'ONU dit aussi son inquiétude de l'usage disproportionné de la force contre ceux qui s'y opposent. Deux conducteurs de convois humanitaires de la Croix-Rouge internationale ont été tués au Soudan, annonce l'ONG. 3 employés ont également été blessés. Des hommes armés ont fait irruption sur leur parcours. Les circonstances restent à éclaircir. La région du Darfour est en proie à une escalade de la violence entre armées régulières et groupes paramilitaires contre le régime. Le sport en football, l'OM s'en sort face à l'Atalanta Bergame, match aller de la demi-finale de la Ligue Europa, 1-1. De son côté, le Bayer Leverkusen a battu l'AS Roma 2-0. Les matchs retour sont jeudi prochain. Enfin, c'est un coup dur pour Lucas Hernandez, le footballeur du Paris Saint-Germain, sorti sur blessure ce mercredi lors de la demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Touché au ligament croisé du genou gauche, Lucas Hernandez est forfait pour le reste de la saison du PSG et pour l'Euro avec l'équipe de France. La météo, de la grisaille et du vent pour la moitié nord avec des averses le long des frontières du nord le matin, des averses aussi sur la côte atlantique où quelques orages peuvent encore se développer. Des Pyrénées au sud-est, le soleil s'imposera. Les températures au matin, toujours de la fraîcheur, 1 degré à Toulouse, 4 à Lyon, 8 pour Bordeaux, Nantes et Dijon, 9 à Paris et 12 à Nice. Au meilleur de la journée, vous compterez 13 à 16 degrés pour la moitié nord, 15 à 19 pour la moitié sud. Enfin, les courses ont lieu à Vincennes ce vendredi, départ 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 16, l'As, le 2, le 4, le 7, le 12 et le 14. L'outsider d'RTL, le 4, Ulysse Digeo.
RTL, 24 heures d'info. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
C'est la suite de Parlons-nous. Alors si vous avez une question, un tourment, un bonheur à partager avec nous, vous êtes les bienvenus encore pendant une demi-heure au standard 09 69 39 10 11. Mais tout de suite, nous vous retrouvons, Émilie. Merci d'avoir patienté pendant les informations. Oui, alors vous nous parliez donc de votre histoire d'enfant avec donc ce divorce quand vous aviez 4 ans, de vous qui avez vécu avec votre père qui ne se remet pas de cette blessure qui lui a été infligée par le départ de votre mère, vous qui en avez pâti, et vous nous dites qu'encore aujourd'hui, vous avez 44 ans, il y a quelque chose de cette histoire dans votre lien qui vous poursuit. De quelle façon, où en êtes-vous aujourd'hui, vous ?
Alors, aujourd'hui, donc en fait, quand je suis partie à l'âge de 20 ans, j'avais repris contact quand même avec mon père. Bon, à la suite de, ça devait être, j'avais dû envoyer un colis pour la fête des pères ou quelque chose comme ça.
C'était gentil.
Voilà. Et j'avais pas eu de nouvelles. Il m'avait pas appelé, il m'avait pas précisé si oui ou non il avait reçu le colis. Et donc je l'ai appelé, j'ai dit écoute, voilà, je t'ai envoyé un colis, je voulais savoir si tu l'avais reçu. Réponse très très laconique, oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Oui. Je sais pas. Je lui ai dit tu me remercies pas. Enfin. Oui. Et alors là, ça a été. Je me suis fait engueuler. Alors je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais je m'en suis pris plein la tête. Et je lui ai dit explique-moi pourquoi. Et en fait, ça n'est pas lui qui m'a répondu, c'est sa femme qui a pris le téléphone et qui m'a expliqué pendant une heure tous les problèmes psychologiques que mon départ avait provoqué, qu'elle m'avait toujours considérée comme sa fille, etc. Et qu'elle ne comprenait pas que je sois partie vivre avec ma vraie mère, etc., etc.
Donc, votre vraie mère, elle dit, vous parlez de vraie mère, enfin, voilà, pas de vraie ou de fausse, oui.
Pendant une heure, elle a parlé, et moi je ne voulais qu'une chose, je lui dis mais passe-moi mon père, à la base c'était mon père, et mon père n'a jamais répondu, n'a jamais repris le téléphone et n'a jamais communiqué avec moi. Bon, donc je m'en suis pris plein la tête, et à la fin elle m'a dit écoute, de toute façon j'ai discuté avec mon psychologue et il m'a dit qu'il valait mieux couper les ponts. Pas de problème. Donc, colère, j'ai raccroché. Et pendant plusieurs années, on ne s'est plus du tout parlé.
Et votre père n'a jamais, ne vous a jamais rappelé à l'issue de cela, enfin.
Pas du tout, rien du tout.
C'est terrible parce qu'il est, il est enfermé dans sa colère et il est tellement emmuré en lui-même, enfermé en lui-même, qu'il se met pas une minute à votre place. C'est comme si comme si à nouveau il revivait le traumatisme de la séparation et que vous étiez totalement identifié à votre mère et qu'à son tour, de son point de vue à lui, vous le rejetez. Alors que, vous voyez, vous n'êtes évidemment pas à la même place et que. Il n'a rien réglé et il vous a tout fait porter. Et malheureusement, votre belle-mère aurait pu être un lien, apaiser un peu les choses. Mais comme elle a une histoire, m'avez-vous dit, très problématique, très conflictuelle avec sa propre mère, elle aussi a transféré plein de choses sur vous. Et de son point de vue à elle, du fait de son histoire et pas du tout de votre comportement à vous, c'est comme si elle aussi se sentait à nouveau rejetée. Donc vous vous êtes pris tous les... Enfin, des choses qui en fait ne vous concernaient pas. Une souffrance qui n'est pas la vôtre, c'est ça qui est terrible.
C'est ce que je me dis aujourd'hui.
Mais qui vous fait souffrir, forcément.
Alors, aujourd'hui, je vous dirais que... Beaucoup, beaucoup moins, que j'avoue, quand j'ai eu ce coup de fil et que les choses se sont passées comme ça, je l'ai très mal vécu et j'en ai beaucoup souffert. Le fait d'aborder le sujet me faisait pleurer, au niveau avec ma mère, quand on essayait d'en parler, je pouvais pas finir une phrase sans me mettre à pleurer d'incompréhension.
Bien sûr.
Donc j'ai fait mon deuil. Bon, j'ai quand même été rappelée par mon père juste pour me dire que j'avais des papiers à signer auprès du juge parce que ils avaient décidé d'adopter une fille. Donc en tant qu'enfant légitime, j'avais obligation. Enfin, ils avaient obligation de me demander mon avis pour adopter cette petite fille. Ils m'ont fait venir. Alors j'ai quand même accepté. Enfin, toujours par peur de cette autorité, alors que je vivais plus du tout avec lui et que je vivais déjà comme une adulte.
Vous aviez quel âge à ce moment-là, vous ?
J'avais 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça.
Oui, à ce moment-là, ça aurait pu être l'occasion de dire, mais enfin, moi, je suis ta fille et tu me tournes le dos.
C'est ce que je lui ai dit. Donc, il n'a pas répondu, je m'en suis bêtement contentée.
Donc, non, c'est pas bêtement, étiez vous aussi dévastée, enfin.
Bah oui, peut-être encore pour essayer de recoller les morceaux.
Mais voilà, vous espériez.
Je me suis présentée chez lui parce qu'il y avait obligation que je vienne rencontrer la petite. Donc, une petite fille de 10 ans qui avait aussi un passé pas très simple.
Bah, dans un tel contexte,
voilà. Donc, on s'est vu. Je lui ai même amené des cadeaux à la petite. J'ai signé les papiers. Et après, c'était fini. Je n'ai plus de nous.
Bon. Oui, c'est-à-dire qu'après, ils auraient pu dire, ça aurait pu être... Bon, déjà, il faut se le prendre, il faut vous dans la figure, mais l'occasion de dire, bon, d'un mea culpa, dire peut-être là aussi que ça leur faisait du bien d'avoir une enfant, un adopté, mais vous venez signer les papiers et après, à nouveau, plus de lien.
Bah non, plus rien. J'avais fait le boulot, c'est tout ce qu'ils voulaient. Donc non, ils m'ont pu contacter. Non,
mais il se rend pas compte, mais il est très maltraitant. Hein.
C'est pour ça que je vous appelais, parce qu'arrive un moment, j'arrive pas à, comme c'est mon père, prendre tout ce recul, c'est très compliqué quand il s'agit des parents.
Bien sûr, mais bien sûr que c'est compliqué.
Ça serait pour des personnes externes. Enfin, quand j'écoute vos émissions, des fois, je suis en rage d'entendre les témoignages parce que je me dis, mais comment on peut être comme ça? Mais en fait, avec mon père, je suis toujours encore aujourd'hui à me poser la question, mais est-ce que c'est moi qui fait les choses pas bien, ou non. Est-ce qu'il est complètement
non,
à la masse ?
Il est complètement emmuré, enfermé dans sa souffrance, et donc il ne voit que les choses de son point de vue, et de son point, avec quand même une grande rigidité, hein, je trouve.
Ah oui,
parce que souffrir ne justifie pas tout, et en tout cas ne justifie pas de vous faire souffrir. Mais il est certainement, je ne sais pas d'ailleurs ce que cette séparation a réveillé chez lui comme blessure pour qu'il n'arrive pas à la surmonter tant d'années après. Et de son point de vue à lui, c'est lui qui a été rejeté. Et c'est là où je trouve violent pour vous, parce qu'il ne vous met pas à la bonne place. C'est-à-dire où vous êtes, vous, à la place d'enfant, et que vous aviez votre propre douleur d'enfant de voir vos parents se séparer. Mmh. Et d'autant plus qu'après, c'est comme si votre mère vous était interdite. Puisque très tôt, vous avez compris que parler de votre mère, c'était faire du mal à votre père. Mmh. À 12 ans, quand vous avez évoqué la possibilité, ce qui arrive souvent quand les enfants ont eu plutôt la garde auprès d'un parent, qu'ils éprouvent à cet âge-là, à l'entrée dans l'adolescence, même un peu avant, d'aller vivre chez l'autre parent. Et ce qui est douloureux pour le parent qui était là dans le quotidien, mais ce n'est pas un rejet de ce parent-là, c'est simplement un besoin aussi de voir davantage l'autre, de partager aussi le quotidien, parce que si on se place du point de vue de l'enfant, il faut tenir compte de ses besoins à lui. Mais votre père est comme souvent les gens emmurés dans une souffrance, est incapable de comprendre, de même certainement réaliser le mal qu'il vous fait. Parce que vous êtes devenu comme votre mère, celle qui laisse, celle qui quitte, celle qui abandonne, celle qui rejette. Alors que vous êtes sa fille, et que vous aviez besoin de lui. Et que vous en auriez encore besoin différemment.
Oui, il y a des choses que j'aurais voulu partager avec lui. Bon, j'ai jamais rien partagé. Je partage plus de choses aujourd'hui avec mon beau-père, qui est donc le mari de ma mère.
Oui, oui.
J'ai partagé beaucoup de choses avec lui depuis que j'ai 4-5 ans, puisque c'est à peu près à cette époque-là que ma mère a rencontré mon beau-père. Mmh. Et voilà. Et donc, bon, après toute cette séparation, bon, j'ai décidé de reprendre contact avec mon père quand même. J'avais un peu fait le deuil de cette relation, mais j'étais enceinte, en fait, à l'époque. Donc, j'étais enceinte de ma fille qui a aujourd'hui 11 ans.
Oui.
Et mon conjoint m'a dit, écoute, t'es enceinte, ça serait bien quand même que tu l'annonces à toute la famille. Et toute la famille, c'est aussi ton père. Oh, non, t'es sûre, vraiment, j'avais pas envie. Et il m'a dit, mais si, c'est important pour elle aussi, plus tard, pense-y et tout. Bon, j'ai appelé mon père, donc grosse surprise, il s'attendait pas du tout à m'avoir au téléphone. Bon. Donc je vais lui annoncer, j'étais vraiment pas à l'aise, alors que c'est plutôt une bonne nouvelle, oui, j'étais vraiment dans mes petits souliers, oui, pour vous dire l'état de stress qu'il provoque chez moi. Oui. Et oui. Il était content, enfin au téléphone en tout cas, il avait l'air très content. Il a très bien accueilli la nouvelle et quand la petite est née, il a voulu la voir. J'ai eu ma deuxième fille après. Et il souhaite aujourd'hui avoir régulièrement des photos d'elle. Quand je viens dans la région, il me propose de venir déjeuner, mais pour voir mes filles. Moi je suis inexistante en fait. Ah. Donc je lui fais. Alors déjà, le contact que j'ai maintenant avec lui, ça n'est pas par téléphone. Oui. Je n'ai pas le droit de l'appeler.
Pourquoi ?
On m'a dit, nous, on ne reçoit. C'est comme ça. Nous, on veut pas que. On décroche le téléphone, on le débranche la journée, on veut pas être embêté. N'appelez pas sur le téléphone, ça sert à rien, on répondra pas. Envoyez-nous des mails. Voilà.
Donc, je communique avec mon père par mail. C'est quand même assez folklore. Non,
quoi.
Mais voyez, là, il y a une rigidité quand même. Il y a quelque chose, ça, c'est quand même très particulier. Dire à des enfants, mais nous, on ne veut pas être embêtés, donc vous m'envoyez un mail.
Voilà.
Non, ce n'est pas des liens, ça. On ne communique pas par mail. Enfin, si, bien sûr qu'on peut envoyer des mails à ses enfants, mais pas uniquement. Il n'y a aucune spontanéité. C'est toujours lui qui décide. Oui. C'est toujours lui qui. Enfin, il contrôle tout. Et vous devez toujours vous adapter. Voilà. Sans pouvoir exprimer ce que vous ressentez, vous.
Ben justement, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous appelle, Caroline. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse à un moment donné. C'est la question que j'ai posée à Paul tout à l'heure. C'est est-ce qu'il faut que je coupe complètement ces liens qui, pour moi, sont toxiques et n'apportent rien à mes filles, très honnêtement. Ou est-ce qu'il faut que j'essaie de jeter le pavé dans la mare une bonne fois pour toutes, écrire une lettre, un mail long comme le bras où je lui pose à plat tous les sentiments que j'ai depuis 40 ans, et lui dire cette phrase que vous avez dit il y a quelques minutes, c'est que je ne suis pas responsable de tout ce qui a pu lui arriver, je ne suis pas responsable de ce qu'il fait souffrir aujourd'hui, j'y suis pour rien, et puis voir. Mais c'est bête, mais autant d'un côté je me dis bon, je vais couper les liens, ça ne fait rien. Autant si j'envoie cette lettre et que derrière c'est le cataclysme ou je me reprends un retour de bâton, je me dis ça va pas, enfin ça va être encore plus toxique et je vais peut-être me tirer une balle dans le pied et ça va peut-être pas me rendre service quoi.
Alors ce qui compte c'est vous, hein, Émilie. C'est-à-dire que il faut faire et vous n'êtes par rapport à votre père, vous n'êtes obligée à rien, vous n'êtes tenue à rien. Il faut faire ce qui est le mieux pour vous. Donc si pour vous vous souhaitez rompre parce que la distance elle s'est installée et pas de votre fait, vous l'avez subi et que pour parfois la rupture c'est presque moins douloureux, entre guillemets, que de maintenir un lien qui n'en est pas un. C'est un peu formel, ou comme vous dites, c'est vos filles, mais encore des photos, un déjeuner, mais vos filles, au fond, quel lien elles ont avec leur grand-père, s'il n'y a pas de lien, enfin, s'il n'y a pas d'intime.
Il n'y a pas de lien affectif, elles ne vont pas passer les vacances chez lui.
Mais un déjeuner.
À côté de ça, ils offrent des cadeaux, enfin, encore allé il y a 6 mois de ça, elles ont été couvertes de cadeaux, et c'est tout le temps comme ça. Mais derrière, effectivement, c'est par mail interposé, c'est toujours des réponses, toujours les mêmes, des espèces de copier-coller qui répètent toujours la même chose.
Un peu stéréotypé.
Stéréotypé, voilà. Moi, je me casse la tête à leur écrire tout un truc en disant la grande a eu un super bulletin, voilà les photos,
c'est vivant,
on a passé des vacances, voilà. Oui. Je fais une espèce de petit roman, mais à chaque fois, la seule réponse que j'ai, alors déjà, elle arrive 3 semaines après. Et la réponse, c'est nous avons bien reçu les photos, nous sommes très contents, nous espérons que la rentrée des classes s'est bien passée, on vous embrasse. Voilà.
Oui, c'est très formel. Donc, factuel, quoi.
Et même mon conjoint qui est plutôt, enfin, qui cherchait au départ à ce qu'on renoue les liens, dernièrement, enfin, on s'est pris encore un mail, on avait envoyé un mail au 1er janvier pour fêter la bonne année. Voilà, présenter nos vœux. Bon, ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas envoyé de mail. On s'est pris un mail disant, ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu de nouvelles, c'est regrettable.
C'est ça, encore du reproche.
Voilà, il m'a dit, mais c'est quoi ce mail? Il dit, on fait tout et ça va encore pas. Ben, je dis, voilà, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre.
Oui, et lui, c'est votre conjoint, il n'a pas ce lien, c'est son beau-père. Vous,
c'est son beau-père.
Vous,
oui.
C'est votre père. Hein. Oui, et à chaque fois, c'est ça vous fait mal. Hein.
Ben, c'est. Oui,
ça vous fait mal. Parce qu'il vous. Il vous a fait beaucoup de mal. Je dis pas volontairement, mais je ne sais pas de quoi est faite sa douleur. Parce que est-ce que avec votre mère, vous avez, puisque elle l'a quitté, est-ce qu'elle connaissait son histoire? Parce que qu'il ait souffert de la séparation, c'est une chose, mais tant d'années après. Et le comportement qu'il a eu avec vous, c'est-à-dire qu'à un moment il n'agissait pas en père protecteur, c'est-à-dire qu'il réglait des comptes aussi à travers vous, il continuait à régler des comptes et il vous demandait comme si en fait vous deviez choisir. C'était ça implicitement. C'est-à-dire il ne vous donnait pas l'autorisation, la liberté d'aimer votre mère, de nouer un lien avec elle. C'était contre lui. Et là, il y a quelque chose quand même, certainement dans son histoire à lui, hein, et dans son histoire d'enfant, là, bien avant son histoire d'homme et de mari blessé à mort, pour que cette séparation ait créé en lui une telle douleur, une telle colère toujours non digérée, parce que c'est ça en fait qu'il s'agit. Et malheureusement, il s'est trouvé une femme qui elle aussi est en colère pour d'autres raisons et pour des elle est en souffrance dans la relation avec sa mère. Donc tout ça a fait un cocktail explosif, mais dont vous avez fait les frais.
C'est ça,
et c'est vrai que je me dis, j'entends ce que vous me dites. C'est vrai que de mon point de vue, je me dis, ça serait quand même bien qui puisse entendre vous, oui, ce qui vous a fait vivre et vous votre souffrance à vous, parce que il est tellement obnubilé par sa douleur qu'il en oublie la vôtre. Mais j'entends aussi ce que vous me dites et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment vous qui comptez. Il faut faire ce qui est le mieux pour vous, parce que envoyer ce genre de courrier au vu de la personnalité de votre père, soit vous avez une non-réponse, ce qui est aussi un peu violent.
J'en ai pas d'habitude.
Mais pire, parce qu'il peut être très agressif. Il y a beaucoup de colère et d'agressivité, et vous prendre comme il a déjà fait par le passé, quelque chose de très violent qui en fait ne vous concerne pas vous d'ailleurs. C'est ça qui est terrible, qui n'est pas adressé à vous, qui est adressé à votre mère, et même, je pense, je ne sais pas quelle relation il avait, lui, avec sa mère. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose autour de l'abandon, il y a quelque chose, certainement, qui est complètement à vif, mais qui fait que, je suis désolée, mais il n'a pas tenu son rôle de père vis-à-vis de vous.
Bah, avec sa mère, je l'ai connue, hein, ma grand-mère, il était très proche d'elle dans les derniers temps. Enfin, je sais qu'il lui faisait beaucoup ses courses, on passait beaucoup de temps chez elle, elle nous invitait à déjeuner, donc il n'y avait pas de tension.
Il était très proche de cette mère.
Il était proche. Bon, après lui, c'est le dernier né. Hein. Il est né après-guerre. Ses 3 frères étaient nés avant-guerre.
Et avec son père.
Le retour du guerrier, on va dire. Et son père, c'était. Par contre, avec son père, je crois que c'était très compliqué. C'est une famille de taiseux, de toute façon, à l'époque. Puis les hommes n'étaient pas aussi proches des enfants qu'aujourd'hui.
Il était fusionnel avec sa mère.
Dire qu'ils étaient fusionnels, mais bon, j'avais déjà entendu dire que c'était le petit dernier, c'était un peu le chouchou, quoi. Mais bon, je sais pas.
Enfin, je pense, en tout cas, j'entends ce que vous dites, que ce lien maintenu un peu artificiellement à base de mails, de ne fait pas sens. Enfin, et que votre désir de couper est une façon aussi de moins souffrir ou de ne plus souffrir. Parce qu'à chaque fois, ça ravive. C'est ce que dit d'ailleurs quelqu'un. Il y avait ce que votre père vous a fait endurer et continue à vous faire endurer. Je me dis qu'il aurait vraiment dû faire un travail sur lui avec un thérapeute après sa séparation. C'est sûr. Rompre, cette personne ajoute, une relation toxique est peut-être la solution pour moins souffrir. Dans la rupture, il peut y avoir de cela. C'est-à-dire, elle n'est pas de votre fait. Vous avez été une fille, je trouve, pleine d'amour. Pleine de compréhension. Et c'est ce que dit aussi une auditrice prénommée Anne, qui dit que vous avez toute la maturité que votre père n'a pas, sur un plan affectif. Et elle dit bravo à vous, parce que c'est plein d'intelligence et plein d'amour. Et ce qui est vraiment très injuste pour vous, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Oui, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a d'avoir une fille aussi aimante, aussi compréhensive, aussi délicate. Vous l'avez protégé, votre père. Vous l'avez, et même avec vos enfants, enfin, on voit, vous avez continué à le protéger. Et vous, bah, vous en avez pris plein la figure. Alors, il y a Cathy qui dit, bon, vider son sac pourrait permettre de ne pas avoir de regrets, pourrait procurer un soulagement, mais elle dit, c'est peut-être la belle-mère qui répond et qui fait barrage. Enfin, on ne peut pas non plus tout dédouaner, et votre père, il a sa part de responsabilité, même si il s'est choisi une femme avec... Oui, mais enfin, il a sa part de responsabilité dans l'histoire.
Ah oui, bien sûr.
Moi, je pense que, vraiment, encore une fois, il n'y a pas une bonne solution, Émilie. Il faut faire de ce qui vous paraît le plus gérable pour vous, et ce qui vous de façon à ce qu'il ne il ne faut plus que ça vous atteigne. Je sais bien que c'est facile à dire, hein, mais il faut plus vous laisser atteindre. Et à un moment, rompre, c'est aussi une façon de ne plus vous laisser atteindre, y compris par ces mails de reproche. Enfin, ça va. Et peut-être là, s'il y avait un mail de reproche, dire moi, c'est en tant que père que tu m'as manqué. Vraiment, il faut.
Sans même essayer de le culpabiliser, mais dire que voilà, moi, voilà ce que j'ai vécu dans ma tête.
C'est pas le culpabiliser, c'est que. Mais je crains qu'il n'entende pas. Parce qu'il aurait dû entendre depuis le moment et qu'il n'est pas à même d'entendre.
Depuis 40 ans, oui. Oui, je pense qu'à un moment donné.
Non, il ne peut pas entendre, malheureusement. Pour vous, malheureusement pour vous. L'important, c'est que vous ayez construit votre famille, et que je pense que votre père, il y a un problème, il y a quand même quelque chose d'un point de vue psychologique qui questionne, hein, sur son fonctionnement et sa très grande rigidité. Donc faites attention à vous et ménagez-vous.
D'accord. Non, mais ça va, hein. Sinon, il n'y a pas...
Bon, bah alors, c'est l'important. Et vous savez, on peut décider de rompre. Hein. On a le droit de rompre, si vraiment la relation fait souffrir.
Pour moi, effectivement, ça me donne des interférences. Donc,
je comprends. Oui, à chaque fois, ça réveille des... Parce qu'il y a du manque. Il y a forcément beaucoup de manque. Et en plus, il vous a fait porter une histoire qui n'est pas la vôtre.
Bah oui.
Et qui, au-delà de là, n'est même plus l'histoire de son couple et de votre mère. Je pense qu'il y a quelque chose de plus loin, sur laquelle il n'a jamais voulu, parce que qui souffre, d'accord. Mais à un moment donné, quand on souffre autant, on peut décider d'essayer au moins d'aller mieux, de calmer un peu cette souffrance, parce que. Il avait une responsabilité. Et c'est pas parce qu'il vous a élevé, d'ailleurs, c'est la question que vous vous posez, finalement. C'était aussi peut-être une façon de faire payer votre mère. Hein.
Ah bah, il a fait appel, hein, de toute façon. Parce qu'au départ, elle avait ma garde, oui. Et il a tout fait pour m'avoir. Hein, donc, voilà.
Oui, mais qu'est-ce qu'il en a fait après, une fois qu'il vous a eu, comme vous dites? de vous et de l'enfant que vous étiez, des besoins que vous aviez. Vous voyez, il est.
Il a toujours répondu aux besoins que j'avais, matériels.
Oui, mais pas affectif. Il vous écoutait pas. Il pouvait pas vous écouter.
Pas affectif. C'est simple. Je suis pas rentrée dans les détails.
On peut pas rentrer dans les détails puisque malheureusement on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Vous n'en avez jamais parlé, vous, de cette histoire?
Alors j'ai eu un moment quelques rendez-vous avec un thérapeute, etc. Bon, mais j'ai compris assez rapidement qu'il fallait que j'aille au-delà de tout ça et j'ai compris qu'il y avait un problème. Hein. Mon père est en souffrance et je peux rien y faire. Mais je pense que j'aurais pas dû renouer.
C'est comme ça. Il faut pas vous en vouloir de cela. Vous êtes pour rester en attente aussi. Que vous compreniez que oui, votre père est en souffrance, mais il y a vous aussi. Et vous, peut-être que si vous ressentez le besoin d'en parler, de ce lien-là, ne vous en privez pas. Vraiment, pour vous, cette fois-ci. Je vous embrasse, Émilie. Okay.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci de votre confiance. Au revoir. Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, un excellent week-end. Et puis bien sûr, on sera là avec la petite équipe dès dimanche soir, 23h. Belle nuit et bon week-end à vous.
RTL. Merci de passer la nuit à l'écoute de RTL.
Tout de suite, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Entrer dans l'Histoire, la quotidienne, la chronique matinale de Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
Bonne nuit et bonne écoute.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans la longue et souvent tragique histoire du Proche-Orient, vous nous emmenez dans le désert de Judée, il y a presque 2000 ans.
Très exactement, le 2 mai de l'an 73 après Jésus-Christ, ce jour-là, les Romains arrivent à enfoncer les murailles de la forteresse de Massada, dernier point de la résistance juive. 8000 légionnaires avaient mené pendant des mois un siège difficile contre cette citadelle tenue par un millier de combattants.
Alors la géographie explique cette position longtemps invulnérable.
Ah bah oui, Massada est plantée sur un éperon rocheux qui domine un désert brûlé par le soleil. Les défenseurs juifs étaient certains que leur place forte était inexpugnable. En plus, ils avaient suffisamment de vivres. Grâce à des citernes creusées dans la falaise, ils avaient de l'eau en abondance pour cultiver la vigne, les oliviers, les dattes ou les céréales.
Et pourtant, Massada est tombée.
Oui, pour la conquérir, les Romains ont quand même dû construire un mur d'encerclement de 3 km et ensuite, ils ont creusé dans la roche une longue rampe d'accès pour acheminer devant les murailles une tour de siège contenant des catapultes. Et grâce à elle, les Romains ont pu faire une brèche et ont pu pénétrer dans la citadelle. Ils ont alors longé les maisons, traversé les jardins, mais il n'y avait aucun bruit. Pas âme qui vive, seulement le lourd silence des soirs de bataille. Et pour cause, pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi, les défenseurs de Massada se sont tous suicidés. 960 cadavres qui jonchent les pavés de la citadelle. Seules 2 femmes et 5 enfants ont survécu. Ils s'étaient cachés dans une citerne.
C'est donc grâce à ces quelques rescapés qu'on connaît précisément la fin de la forteresse de Massada?
Oui! Grâce à leurs témoignages, on y apprend que le commandant de la forteresse était clair sur le choix du suicide collectif. Écoutez-le, la liberté sera notre linceul. Mourons sans être esclaves de nos ennemis. Sortons libres de la vie. Hâtons-nous de laisser aux Romains un sentiment de stupeur devant notre mort et d'admiration devant notre courage.
Et c'était donc la fin de l'indépendance juive sur la terre même de l'épopée biblique.
Ouais, le grand temple avait été détruit 3 ans auparavant et Jérusalem avait été rasée. La ville sainte sera remplacée par une cité romaine nommée Aelia Capitolina et défense aux juifs d'y pénétrer sous peine de mort. Même le pays va changer de nom. Les Romains l'ont appelé Palestine, c'est-à-dire le pays des Philistins, des étrangers, histoire de faire oublier l'ancien royaume d'Israël.
Des bouleversements qui ont transformé la région et le monde.
Dans cette atmosphère de bouleversement, les juifs devaient se réinventer. Les fidèles qui se savaient condamnés à un long exil se sont créés une patrie transportable en rédigeant le Talmud, c'est-à-dire l'ensemble des lois et des commentaires d'un judaïsme qui cherchait un nouveau souffle. D'autres juifs, eux, disciples de Jésus de Nazareth, abandonneront la stricte observance des lois religieuses et se créeront un destin universel en apportant leur vérité à tous les peuples de la terre avec le succès que l'on sait.
prochain rendez-vous avec Laurent Deutsch, tout à l'heure à 7h20 ou dès maintenant en podcast sur rtl.fr et l'application RTL. Et tout de suite, on rit ensemble avec l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonne nuit à l'écoute de RTL.
Philippe Anne-Sophie Yann qui publie un livre très émouvant, Les derniers jours de Johnny, est resté pour votre chronique.
Au printemps suivant, le ciel irlandais était
en... Ah, Johnny, tu nous manques. Vous le savez, Yves, je suis un peu un barman de l'humour. Alors là, en ingrédient, on a quoi ? On a un cancer en phase terminale et l'artiste préféré des Français. T'as beau rajouter une grande paille et un petit parasol rigolo, je suis pas sûr de vous faire un cocktail réussi ce matin. Bonjour Anne-Sophie. On va parler de Johnny, qui a eu l'inélégance de niquer le décès de Jean d'Ormesson en mourant le même jour. On adorait les deux.
Oui.
Mais il faut reconnaître que le fan de Jean Do est aujourd'hui moins visuellement identifiable. Pas de tatouage tête de lion, pas de chemise en jean avec une tête d'indien brodée, peu de Santiago vache à franges que vous affectionnez depuis que vous faites de la danse country, et très peu de coupe mulet. On se rappelle tous de l'endroit où qu'on était quand on a appris la mort de Johnny. C'est moins vrai pour celle de Dick Rivers. Vous étiez où pour la mort de...
Oh non, c'est horrible.
Marcel Amon, pareil. Je ne me rappelle pas. Yves Duteil, bon, non, pas encore mort.
Non, il n'est pas mort.
Eh ben voilà, c'était ça le piège. Il vivra jusqu'à 120 ans.
Le petit pont de bois, bah oui.
Ben oui, évidemment. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de Johnny sans parler des grands auteurs, et en particulier de Camus. J'aime à citer Camus, qui a eu cette phrase magnifique, la gorge nouée par l'émotion. C'est la mort dans l'âme que je viens vous dire que le concert de jeudi n'aura pas lieu. Et c'est beau, l'émotion pure et brute d'un producteur qui voit partir une billetterie de 40 000 places à 65 euros.
Oui.
Je parlais de Jean-Claude Camus. Pas,
oui, c'est pas Albert, pas, on est bien d'accord.
Son grand frère Albert.
C'est bon de le préciser.
Jean-Claude Camus qui avait ajouté « connard de Louis Baudin », il avait dit qu'il ferait beau temps, voilà. Anne-Sophie, les extraits que j'ai lus sont très forts, très émouvants, avec la grande et j'ai envie d'en parler dans la petite papeterie.
Ah. Voilà.
Alors, Anne-Sophie, bonjour, on a adoré, adoré vraiment ce livre. Les derniers jours de Johnny, c'est l'occasion de parler d'autres biographies de chanteurs français. Si vous avez aimé Le nom de la rose d'Umberto Eco, précipitez-vous sur Au nom de la cirrhose, cet ouvrage sur Serge Gainsbourg, mais aussi Les artistes se cache pour vomir, ça c'est très joli. Et J'irai gerber sur vos pompes, un troisième ouvrage. Deux bios sur Renault,
oui.
Le parfum, c'est bon aussi quand il n'y a plus de pastis, on a adoré. Et bien évidemment, c'est cet hommage à Stendhal, oui. Le rouge et la poire, on a beaucoup aimé. Tiens, un recueil aussi de textes et de chansons. Gérard Depardieu chante Barbara et tripote la maquilleuse. Ça, c'est à pas mettre entre toutes les mains. Et enfin, Mort à crédit, livre enquête sur les dettes que Johnny a laissées à sa famille.
Bon, les Français ont aimé et aiment encore Johnny de façon tout à fait inconditionnelle.
On a tout pardonné à Johnny, la coke, l'alcool, le soutien à Nicolas Sarkozy. Moins un Faudel. Oui. Alors, c'est peut-être une histoire de répertoire aussi. Il y avait chez Johnny une forme d'intelligence animale et d'humour surréaliste. Réaliste. Quant au 20h, bon, il parle à Claire Chazal de son footballeur préféré.
Je connais Zazie, je l'adore comme joueur.
On s'en lasse pas.
Non.
Et puis, bon, quand il rentre du Dakar, c'est le philosophe du temps qui passe qui parle.
Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15 ? On serait là depuis 1h15.
Ah oui, j'ai l'impression d'être Cyprien Sini, j'envoie des sons, c'est cool. C'est vraiment un boulot de feignant.
Ouais.
Alors, il y a eu un autre moment suspendu, je ne sais pas si vous avez vu, une fulgurance. Claire Chazal l'interviewe après son coma, et lui, elle lui dit très logiquement, pendant votre coma, ben, tous les Français étaient inquiets, demandaient de vos nouvelles, ça vous fait quoi de savoir que tout un pays vous aime et tremble pour vous? Et là, Johnny de répondre, moi, je ne me suis pas du tout rendu compte, vu que j'étais dans le coma. Et c'est vrai que ce n'est pas faux quand il pense, voilà. Et sa meilleure vanne, bien sûr, la meilleure vanne de Johnny sur sa routine santé.
Malgré tout ce que l'on peut dire, je vis quand même assez sainement. Je fais pas mal de sport. J'ai une hygiène de vie assez saine.
Oui, oui. Voilà, et le dire en boîte de nuit, bien sûr, j'ai une hygiène de vie assez saine.
Merci d'être resté avec nous, Anne-Sophie Yann. Bonne
Merci
journée et bon travail.
L'œil de Philippe Cavrivière, c'est tous les matins à 7h55 sur RTL et à tout moment en podcast sur rtl.fr et sur notre application.
Et dans un instant, RTL vous propose d'écouter un épisode de Tout savoir sur, le podcast quotidien de la rédaction. À tout de suite.
Tout savoir sur.
Bonjour. Bonjour, c'est Virginie Garin. Je suis spécialiste à RTL des questions d'environnement et dans ce podcast, je vais vous parler du cuivre parce que c'est le métal indispensable à la transition énergétique. Le métal qui conduit l'électricité et comme tout va être électrifié, on va avoir besoin de beaucoup de cuivre. C'est d'ailleurs un métal dont les cours battent aujourd'hui des records, 10 000 euros la tonne et ce n'est peut-être qu'un début.
RTL 7h36, l'Anglais Co avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Le secteur du cuivre est alors en pleine ébullition, oui. Et le cours de ce métal, pourtant banal, a priori explose.
C'est vrai. Il a cassé la barre des 10 000 dollars la tonne cette semaine, après une hausse de 16% cette année. Ouais. Certains analystes le voient très vite à 12 000, même 15 000 dollars la tonne.
Alors pourquoi avons-nous autant besoin de cuivre et d'autres métaux rares d'ailleurs, hein, importants pour la transition écologique? Et comment va-t-on faire? C'est un sujet qui passe un peu inaperçu et qui n'a pas vraiment été pris en compte dans les stratégies publiques du gouvernement. Alors extraire du cuivre, c'est polluant. Et puis ça pose aussi des questions sur les droits sociaux, des conditions de travail dans les mines, dans les pays qui le produisent. Ça pose aussi des questions de souveraineté et de notre indépendance économique. Alors, j'ai invité dans ce podcast Arthur Keller, économiste systémique, spécialiste de la transition. Et puis vous entendrez des reportages de journalistes de RTL sur les vols de cuivre. Et oui, c'est devenu un métal très précieux. Et puis des analyses de nos spécialistes à RTL, François Langlais, spécialiste économie, et Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat. Alors, il y a quelques temps, j'ai reçu un livre à la rédaction. Il était sur mon bureau et j'ai commencé à le feuilleter. Il s'appelle « La ruée minière au XXIe siècle ». Le titre n'était pas très attirant, mais quand même, j'avais en tête de faire un sujet sur les pénuries de ressources. Donc, le titre m'a interpellé. C'est le livre d'une journaliste qui s'appelle Célia Isoard. Et les premières pages m'ont fasciné. Alors, elle décrit d'abord un oiseau. L'oiseau est une oie qui est poursuivi et affolé par un drone. On est aux États-Unis. Quelques mois avant, des milliers d'oies sont mortes à cet endroit. Elles étaient venues boire dans ce qu'elles croyaient être un lac. C'était en fait une ancienne mine de cuivre. Après sa fermeture, les produits toxiques qui avaient été utilisés pour extraire le cuivre sont remontés peu à peu à la surface, formant un lac de poison toxique. Alors, comme il est impossible à vider ou à recouvrir, il est très grand ce lac, eh bien pour empêcher les oiseaux de boire, il a fallu mettre en place un système de drones pour les effrayer. Et quand ça ne suffit pas, il faut faire décoller des hélicoptères. Tout cela est très effrayant et ça permet de comprendre combien l'extraction de ces métaux si précieux dans nos vies est aussi si polluante. Et pourtant, c'est le métal de la transition. Hein. Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur spécialiste du climat ici à RTL, expliquait récemment dans sa chronique « C'est notre planète » chez Stéphane Carpentier, le week-end, le matin, ce que sont les métaux de la transition.
Aujourd'hui, quand on utilise du pétrole, du gaz ou du charbon, très souvent, on utilise un gaz ou un liquide. Le pétrole, c'est de l'essence qui rentre dans une voiture. Le gaz, c'est le gaz gazeux qui rentre par un tuyau chez nous ou dans une usine. À l'avenir, si on a beaucoup moins de pétrole, de gaz et de charbon, ce qu'on va utiliser, c'est beaucoup plus de l'électricité. Et quand on a des appareils qui sont électriques ou de la production électrique, il y a un métal qu'on voit apparaître de façon très significative qui est le cuivre. Chacun sait qu'on fait les câbles électriques en cuivre, qu'il y a du cuivre dans les moteurs électriques, pour ceux qui ont débobiné des rotors là, quand ils étaient petits. Et quand on va passer à l'électrification des usages, ou si on y arrive, on va avoir besoin de beaucoup plus de cuivre qu'avant. Et d'une manière générale, les métaux de la transition, c'est tous les métaux dont on va avoir besoin pour faire des voitures électriques, des batteries, des moteurs électriques, éventuellement des générateurs électriques, des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Et c'est ça qu'on appelle les métaux de la transition.
Alors, il y a le cuivre, mais pas seulement. Il y a aussi le lithium, hein, qui sont les métaux de la transition écologique. Et Jean-Marc Jancovici nous explique qu'on va rapidement en manquer.
L'Agence internationale de l'énergie a publié dans un rapport il n'y a pas longtemps une information qui est passée sous silence, qui est que les mines de cuivre actuellement en exploitation ne vont pas pouvoir produire plus à l'avenir et elles vont arriver bientôt à un moment où elles vont produire de moins en moins, tout simplement parce qu'il reste de moins en moins de métal à sortir de la mine. Or c'est ennuyeux parce que, par exemple, si on veut faire de l'électricité avec des panneaux solaires plutôt qu'avec des grosses centrales, qu'elles soient à charbon, à gaz ou nucléaire, il faut 10 fois plus de cuivre par kilowattheure. Si on veut électrifier les voitures, il faut 5 fois plus de cuivre par voiture. Si on veut les passer à l'électricité, il faut quelques kilos de lithium par voiture pour faire la batterie, etc. Et donc la vraie question qui se pose aujourd'hui et qui est un angle mort de toutes les politiques de transition, c'est-à-dire qu'en gros personne n'a regardé ça, ni au gouvernement, ni dans les gens qui font des scénarios en disant on va tout décarboner et tout se passera bien, c'est est-ce qu'on aura assez de métal pour être capable de remplacer par des voitures électriques le milliard de voitures à pétrole qu'on a sur Terre, et si on va être capable de déployer partout des éoliennes et des panneaux solaires pour nous fournir de l'électricité dite propre.
Alors où est-ce qu'on peut en trouver? François Langlais, notre notre spécialiste des questions économiques à RTL, lui, n'est pas très optimiste visiblement.
Les trois premiers producteurs mondiaux, ce sont le Chili, le Pérou et la République démocratique du Congo. Alors le problème, c'est que les mines existantes sont anciennes et que leur production devrait décliner dans les années qui viennent. Il faudrait investir dans les 150 milliards, selon les experts du cuivre, pour suivre la demande. Les grands groupes miniers, ils n'ont pas développé leur capacité de production. Ils ont préféré augmenter les dividendes pour leurs actionnaires, parce que les années récentes ont été assez bonnes, ou bien fusionner entre eux. Il y a 10 jours, c'est le géant BHP, à la fois anglais et australien, qui faisait une offre sur la société britannique anglo-américaine, justement parce que cette dernière possède des mines de cuivre.
Et il y aurait de nouveaux gisements ?
Écoutez, pas plus tard qu'il y a 2 mois, une start-up minière américaine, Cobalt Mining, elle a déclaré avoir trouvé en Zambie, en Afrique, le plus gros gisement depuis un siècle. Cobalt Mining, figurez-vous, il a 2 actionnaires prestigieux, Bill Gates, fondateur de Microsoft, et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Les Américains se mettent en fait en 4 pour diversifier leurs approvisionnements et ne pas trop dépendre de la Chine, qui ratisse les mines du monde entier depuis 20 ans. Le problème, c'est que l'ouverture de nouvelles mines suscite aujourd'hui immanquablement l'opposition des populations voisines et puis des ONG environnementalistes, parce que c'est une activité polluante pour les sols, même si les techniques ont beaucoup évolué.
Alors le cuivre, métal précieux, fait l'objet de plus en plus de vols, à tel point que des entreprises comme la SNCF ou Orange sont obligées de mettre en place des stratégies pour lutter contre les voleurs. En mars 2022, Arnaud Touche, sur RTL, avait rencontré Muriel Duguay-Vossard, directrice de la sûreté ferroviaire à la SNCF.
Aujourd'hui, ce sont 1000 dispositifs qui sont installés sur l'ensemble du réseau ferré national. On utilise également des drones pour les surveillances ciblées de jour comme de nuit. Nous sommes en partenariat également auprès de la gendarmerie et de la police nationale.
Des gendarmes sont même spécialement formés pour mener des enquêtes et traquer ces réseaux qui profitent de la hausse presque continue du cours du cuivre.
Chez Orange, il y a une dizaine de vols par semaine. Nicolas Bobby, dans le Grand Ouest, a fait récemment un reportage avec des spécialistes qui traquent et arrêtent les voleurs, évidemment avec des gendarmes.
Techniciens chez Orange, Frédéric et Stéphane sont les bêtes noires des voleurs de cuivre. Ils ont piégé les câbles souterrains du Grand Ouest avec plusieurs systèmes redoutables de détection de coupures du réseau. Dans le catalogue, il y a également de l'intelligence artificielle.
On va utiliser des objets qu'on trouve dans le commerce, qu'on va adapter sur nos câbles en fait, pour pouvoir les superviser en temps réel.
On teste différents produits, des sondes localisés par GPS, de manière à s'adapter à la malice de nos voleurs.
Les malfaiteurs sont interpellés en flagrant délit et changent leur pince coupante pour les menottes. En quelques semaines, 5 équipes chevronnées sont passées par la case tribunal.
Ça, c'était le côté un peu fait divers du dossier. Mais ça montre que ça devient un métal précieux. Donc, comment fait-on après ce constat ? J'ai invité dans ce podcast l'ingénieur Arthur Keller.
Bonjour Virginie.
Alors vous vous définissez sur votre compte Twitter comme penseur d'alerte. Vous êtes expert des vulnérabilités des sociétés face aux risques systémiques. Alors vous confirmez, les réserves de cuivre diminuent.
Il y en a encore du cuivre, mais il va être compliqué de l'avoir pour plein de raisons, notamment pour des raisons d'eau, de disponibilité d'eau. Les endroits où il y a du cuivre au niveau mondial, c'est essentiellement en Chili, Pérou. Il y en a également en Australie. Et dans tous les cas, ça demande énormément d'eau douce, pour exploiter ce cuivre. Or, que ce soit dans la cordillère des Andes ou que ce soit en Australie, on est confronté à des graves problèmes de pénurie d'eau de plus en plus. Et c'est via cette pénurie d'eau qu'on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement. Mais au-delà de ça, c'est une question politique et géostratégique. Il faut bien comprendre que l'Europe, par exemple, a très peu d'industries minières, notamment parce que on n'a pas tout dans notre sol, d'une part, et d'autre part, même ce qu'on avait dans le sol, on a décidé plutôt de le faire exploiter ailleurs dans le monde, parce que c'était très sale et que ça posait des problèmes énormes sur l'environnement, sur les aquifères, sur les cours d'eau, sur la santé humaine. On a préféré aller faire ça ailleurs. Et à la fois, oui, parce que nous nous retrouvons vulnérables, il faut bien se dire que ce que l'on n'a pas chez nous, il faut l'acheter ailleurs. Il faut bien quand même se mettre en tête que on n'achètera que ce que les autres voudront bien nous vendre. Donc pour l'instant, ça va, mais demain, on ne sait pas. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, il faut comprendre sur la partie production minière qu'il y a toujours 2 courbes qui s'affrontent, 2 tendances générales qui sont en train de qui luttent l'une contre l'autre. D'un côté, à mesure que l'on exploite, on fait face à un phénomène de déplétion des gisements, c'est-à-dire d'épuisement progressivement des gisements. Aujourd'hui, on est en train de rouvrir, par exemple, des mines qui ont des concentrations en cuivre et autres métaux extrêmement faibles, qu'on avait fermées dans le passé, parce que c'était plus rentable du tout de les exploiter et on savait plus le faire. Mais les techniques s'améliorant, maintenant on est de nouveau capable d'extraire des fois quelques grammes ou quelques dizaines de grammes de métal par tonnes de roches déplacées. Donc d'un côté, ça s'épuise, mais de l'autre côté, il y a les techniques qui s'améliorent. Il y a également de nouveaux gisements qui sont découverts. Et donc, ce sont ces deux courbes qui s'affrontent en permanence. D'un côté, il y en a de moins en moins à exploiter, mais de l'autre côté, on s'améliore sur les techniques, on a plus d'énergie et on fait de la découverte de nouveaux gisements. Là, sur le cuivre, on est vraiment au moment où notre capacité à trouver d'autres gisements et notre capacité à améliorer les techniques ne suffisent plus à compenser la perte et la déplétion. D'après l'Agence internationale de l'énergie et d'autres experts, dans les 2-3 ans qui viennent, il y a de très très grandes chances qu'on bascule de l'autre côté, sur l'autre pan. C'est-à-dire le pan où on va en avoir de moins en moins, malgré les techniques qui s'améliorent et malgré les nouvelles découvertes.
Alors qu'on a besoin de plus en plus de cuivre pour justement faire cette transition écologique, donc vous, quelles solutions vous proposez ?
Alors solution, c'est un bien grand mot, mais effectivement, face à ça, il y a une conclusion qu'on peut en déduire. C'est que oui, nous avons besoin, pour des choses graves, c'est-à-dire pour des choses très très importantes, cette transition énergétique, elle est extrêmement importante, nous avons besoin d'un certain nombre de ressources, notamment ces métaux-là. Or, nous allons être confrontés à des goulets d'étranglement. Et donc face à ça, il faut simplement limiter le flux. Ce que je dis, c'est une évidence et en même temps, c'est pas facile. C'est-à-dire que ça implique quoi ? Aujourd'hui, la transition énergétique, il y a plusieurs leviers à actionner. Le premier levier, ça va être effectivement électrifier un certain nombre d'usages, produire l'énergie différemment et puis la stocker différemment également. Donc ça demande énormément, comme on vient de le dire, de minerais, notamment de métaux. Et donc ça, on le fait et c'est bien. Mais c'est bien des fois à des coûts qui sont déraisonnables. Par exemple, si pour récupérer certains minerais dont on a besoin pour décarboner d'un côté, je vais pulvériser des forêts primaires quelque part dans le monde, par exemple en Indonésie, c'est absolument terrible ce qui se passe là-bas. Et donc on coupe des surfaces absolument dingues de forêts primaires. Forêt primaire qui est extrêmement importante par ailleurs, au-delà de la biodiversité, c'est très important, mais aussi pour stocker du carbone, il y a un côté un peu bizarre. Pour économiser du carbone d'un côté, on va détruire des écosystèmes millénaires de l'autre qui sont importants pour stocker du carbone. Bon, donc il faut faire attention quand je dis qu'il faut développer les renouvelables, oui, mais pas toujours, pas à n'importe quel prix, il faut à chaque fois se poser les questions des arbitrages. Le deuxième levier sur la transition énergétique, c'est l'efficacité. Par voie d'optimisation et d'innovation, on est capable de produire la même chose en consommant moins d'énergie au passage. Bon, ok, ça s'améliore régulièrement. Le troisième levier, ça va être la sobriété. D'abord, on peut réduire les superflus. Aujourd'hui, effectivement, comme on le disait, nos sociétés ont besoin de minerais, notamment de métaux, pour la transition. Enfin, aujourd'hui, les usages que l'on fait, ils sont pas, notamment du cuivre, ne sont pas réservés spécifiquement à cette transition qui est vitale. On utilise également du cuivre pour tout et n'importe quoi. Donc déjà, il faudrait faire un tri entre ce dont on a vraiment besoin et ce dont on n'a pas besoin.
C'est quoi les usages gadgets ?
Écoutez, on fabrique, par exemple, énormément d'appareils électroniques dont on n'a pas besoin, par exemple. Pour savoir si c'est un usage gadget ou pas, il faut se reposer la question du besoin. Est-ce que ça correspond à un besoin ou pas ? Alors, il y a tout un débat qu'on peut avoir sur c'est quoi un besoin. Évidemment, il y a des besoins absolument indispensables, des besoins élémentaires. Et puis, il y a d'autres choses dont on peut discuter. Est-ce que c'est un besoin ? Est-ce que c'est pas un besoin ? Ce qu'on peut dire, par contre, aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société qui est consumériste, où on encourage l'augmentation perpétuelle des flux d'énergie et de matière qui sont utilisés à des fins qu'on peut sans doute remettre un peu en question. Est-ce qu'on a besoin de fast fashion dans notre monde ? Je suis pas sûr. Il faudrait arrêter le délire à certains égards. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'électronique absolument partout ? On en met absolument partout. Est-ce qu'on a besoin de smart cities ? Est-ce qu'on a besoin de grands projets incroyables en Arabie Saoudite, de villes futuristes qui vont demander notamment beaucoup de sable, dont on manque maintenant, et beaucoup de métaux ? Je suis pas sûr. Donc, c'est un débat, j'ai pas une réponse toute faite à qu'est-ce qui représente du superflu. N'empêche qu'il y en a et qu'il faudrait avoir un grand débat sur ce qui est superflu, ce qui ne l'est pas et est-ce qu'on peut rogner dedans.
Et est-ce que cette sobriété, donc de supprimer ces usages gadgets, par exemple du cuivre, est-ce que ça peut suffire pour avoir suffisamment de matière pour faire la transition ?
Alors, il y a différents leviers sur lesquels on doit jouer et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que de jouer sur tous les leviers à la fois. Il y a un levier économie circulaire et notamment, il y a du recyclage à mettre en place sur les métaux, c'est très important, même si c'est jamais parfait, on reboucle jamais à 100%. Il y a un levier sur la réduction des superflus, et éventuellement, certains, on peut les appeler la réduction des gaspillages, carrément. Et puis, il y a le tout dernier levier qui relève de la sobriété. Et ce levier-là, aujourd'hui, on veut pas trop en parler parce que ça nous arrange pas, parce que notre système économique ne sait pas gérer ça pour l'instant bien. Mais en tout cas, il y a le levier produire et consommer moins.
Alors, on se demande, nous, simples citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, dans notre vie quotidienne, l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai besoin d'acheter neuf ? Est-ce que je peux pas trouver ça ailleurs d'occasion ? Comment je fais, moi, pour agir sur cette problématique ?
Alors, c'est une bonne question, et en même temps, si je puis me permettre, je pense que c'est pas la bonne question à poser, mais je vais quand même y apporter un début de réponse. Déjà, effectivement, c'est pas agréable de se dire, il va falloir revoir à la baisse ce que l'on peut ou ce que l'on veut ou doit consommer. Je vous parle pas de ce que je préfère. Je suis pas ici pour dire mon avis personnel, Arthur Keller, c'est il faudrait consommer moins. Oui. Moi, je vous parle de ce qui va se produire. Malgré les nouvelles découvertes de gisements, malgré l'amélioration des techniques, globalement, c'est certain que l'on va bientôt basculer dans une partie de l'histoire où on aura moins de ressources. Et soit on est capable de remettre en question un certain nombre de choses dans notre modèle économique, dans la façon dont on produit, dont on consomme, et peut-être qu'on pourra anticiper, choisir ce à quoi on veut renoncer, et puis derrière, piloter la chose, et finalement ça peut très bien se passer, parce qu'on a trop. On a trop dans un pays comme le nôtre, j'entends. On peut très bien faire mieux avec moins. Soit on refuse ça et on continue de vouloir ne pas se mettre de limites, auquel cas, ça va être probablement dans le chaos que vont nous être infligées des contraintes et des limites supplémentaires. À titre personnel, on peut faire plein de choses, mais je pense que pourquoi je dis que c'est pas forcément la meilleure question à poser, c'est parce que il faut pas faire tout reposer sur les épaules des gens, surtout dans un milieu, dans un monde et un système qui nous encourage en permanence à consommer plus. Un système qui produit des désirs. On peut pas, dans un système où les gens sont en permanence encouragés à avoir le dernier gadget super, formidable, on peut pas en même temps dire aux gens, faites un effort s'il vous plaît.
Donc ce sont les gouvernements, les entreprises qui doivent nous aider à changer plutôt que de culpabiliser les consommateurs ?
Il faudrait responsabiliser les gens, mais avant de responsabiliser les gens, en tout cas en même temps, il faut aussi responsabiliser les entreprises et les marques. S'il n'y a pas de décisions politiques qui sont prises, qui sont claires et ambitieuses, ça va pas boucler. Il faudrait pour cela que le politique comprenne qu'il veuille bien comprendre qu'il y a une antinomie entre d'un côté prôner une certaine transition et de l'autre côté continuer à encourager un système de toujours plus.
Alors quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il y a des alternatives selon vous ?
Il y a des gens qui proposent déjà des choses très intéressantes. Il y a des innovations ou des initiatives qui relèvent vraiment d'un modèle d'organisation différent. Donc c'est juste comment on s'organise différemment pour consommer moins, mais moins et mieux. Après, il y a des choses qui sont plus techniques, qui sont très intéressantes, et là, je vais aller piocher dans les low-tech. Les low-tech, ou basse technologie en français, c'est pas simplement un type qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver, ou une marmite norvégienne, un four solaire, des choses que l'on voit qui sont du super bricolage. On pense que ce serait un petit peu gadget. Mais c'est pas le cas, en réalité. Il y a, dans les low-tech, un vrai potentiel énorme, à la fois de répondre aux besoins de façon efficace et de façon durable, mais aussi de limiter considérablement les impacts en termes d'empreinte écologique, et donc notamment de limiter l'empreinte matière, notamment les métaux. Toutes les logiques sont là, dans l'innovation low-tech, pour réussir à créer des systèmes qui sont sobres en ressources et qui sont de surcroît résilients, c'est-à-dire qui pourront continuer de fonctionner, même en mode dégradé, si jamais demain on a des ruptures d'approvisionnement pénibles. J'encourage vivement les auditeurs à aller d'une part lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. C'est facile à trouver, c'est gratuit. C'est très intéressant parce qu'on peut y voir ce qu'est l'innovation low-tech, ou ce que peut être le potentiel de l'innovation low-tech, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Aujourd'hui, il y a par exemple des gens qui essaient de nous vendre que l'innovation low-tech, c'est pareil que l'innovation frugale. Ce n'est pas vrai.
Alors, quand vous parlez d'objets low-tech, qu'est-ce que c'est par exemple ?
Par exemple, en France, on a un nouveau constructeur automobile depuis quelques années qui s'appelle la Gazelle. La voiture en elle-même est plutôt low-tech. Alors quand on dit low-tech, attention, c'est pas no-tech. Il y en a de la technologie. Il y en a juste moins que ce qu'il pourrait y avoir dans une voiture, en l'occurrence, moderne. C'est pas une Tesla. On est vraiment sur de la légèreté technologique, mais il y a quand même de la technologie. Ce qui est intéressant sur la Gazelle, c'est pas juste le véhicule, c'est le modèle industriel qui va autour. C'est le premier constructeur automobile qui n'a pas d'usine. Il n'y a pas d'usine d'assemblage de voitures. Ce sont des ateliers qui occupent deux équivalents 20 pieds. Les équivalents 20 pieds, c'est les conteneurs qu'on voit sur les porte-conteneurs. Donc c'est deux gros conteneurs qui sont installés quelque part et qui font atelier. Ce sont des mini-ateliers d'assemblage qu'on peut mettre un peu partout. Ça fait partie aussi de la logique low-tech. C'est pas juste ce qui est produit, c'est la manière dont c'est produit. En l'occurrence, on ne dépend pas d'une grosse usine quelque part, mais on peut se débrouiller avec plein de petites unités qui sont difficilement délocalisables. C'est-à-dire, elles sont mises à un endroit et ça crée un emploi ou deux emplois localement. Et on peut pas délocaliser d'un seul coup, c'est ça que je veux dire, des milliers d'emplois à l'autre bout du monde parce que l'usine ferme.
Vous avez d'autres exemples de ces technologies low-tech ?
Voilà, parmi les autres exemples qui me viennent, il y a ce que propose l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan, c'est très intéressant, c'est une coopérative qui conçoit et fabrique des équipements pour la production agricole, mais des équipements intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas des équipements manuels de base qui fait qu'on se tue le dos et les genoux, mais qui ne sont pas non plus des grosses machines industrielles qui viennent compacter le sol et qui ont leurs avantages, bien sûr, mais qui ont aussi de gros inconvénients sur la santé des agro-systèmes. Et donc, en l'occurrence, voilà, ce sont des équipements intermédiaires, le juste positionnement de curseur, avec peu de technologie, mais suffisamment pratique pour que, pour des producteurs eux-mêmes de taille intermédiaire, ça permette de faire le job. Les low-tech, c'est vraiment mettre la technologie en adéquation avec les besoins, se concentrer sur les choses vraiment essentielles et avoir une sorte de discernement, pas rajouter de la sophistication partout, si c'est pas absolument nécessaire. Voilà, c'est très important aussi pour des choses essentielles, comme par exemple la production alimentaire ou pour les transports, de ne pas dépendre, ou pas trop, le moins possible en tout cas, d'équipements, de puces électroniques par exemple, qui ne sont fabriqués qu'à Taïwan. Taïwan où il y a par ailleurs des gros problèmes d'eau. Donc il y a toute cette logique beaucoup plus générale et systémique que simplement fabriquer un objet. On a beaucoup de leviers à activer, et il faut le faire. Mais pour ça, il faudrait s'éveiller, il faudrait comprendre effectivement que pour l'instant en tout cas, on ne pourra pas continuer, quelle que soit la transition que l'on fait, à répondre à des besoins toujours croissants. Donc certaines choses peuvent continuer, doivent continuer de croître, mais d'autres doivent aujourd'hui décroître, voire être arrêtées. Il y a des questions à se poser et il faut réinventer le modèle pour qu'on passe plus sur une croissance qualitative que strictement quantitative, où il faudrait que tout soit en permanence en augmentation. Ça, effectivement, ça durera pas. Ça va donc passer par des décisions sur qu'est-ce qu'on arrête ou qu'est-ce qu'on l'on réduit considérablement.
Bon, on va rester sur cette note à peu près positive. Il y a encore des solutions. On l'a